Les bénédictions sont dans le Christ. Alors, je résume l'enseignement de ce chapitre. Les sacrifices ne peuvent pas rendre parfait. À ce moment-là, quand l'heure fut venue, dans le ciel, le Fils dit « Maintenant, pour abolir le péché, par un seul sacrifice, c'est l'heure que je m'incarne. » Et il dit à son Père, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Mais pour abolir par un seul sacrifice tous les autres sacrifices, et que ce soit vraiment un sacrifice, il faut que le Seigneur prenne un corps. Alors, tu m'as formé un corps. Tu as dit, aux sacrifices et aux offrandes, je ne prends point plaisir. Alors, j'ai dit, tu m'as formé un corps. Et c'est ce corps qui a été formé dans le sein de la Vierge Marie. Et c'est dans ce corps que le Seigneur a accepté de prendre tous nos péchés pour que ces péchés que nous avions commis dans la chair soient jugés dans la chair, mais pas dans la nôtre, parce que si ça avait été jugé dans la nôtre, nous serions tous perdus. Mais nos péchés, Romains 8, verset 3, ont été pris par le Seigneur et sur la croix, nos péchés ont été jugés dans la chair du Christ. De sorte que s'ils ont été jugés dans la chair du Christ, c'est fini. C'est complètement terminé. Le Seigneur était l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a annoncé cela. Eh bien, il l'a été. Et pour ceux qui ont cru, ils n'ont plus affaire avec le péché. Mais ils ont affaire avec leur souverain sacrificateur, avec leur avocat céleste. Certes, nous savons qu'aux yeux de Dieu, le péché a aboli. Mais je sais très bien, parce que je suis réaliste, que le péché peut être encore en moi, dans ma chair. Mais ce n'est pas cela qui me décourage. Je sais qu'en ma chair, il n'habite point de bien. Et alors, je suis un de ceux qui soupirent après ce Jésus qui doit revenir, comme nous l'avons vu ce matin, et qui, par son pouvoir, transformera le corps de notre humiliation en la ressemblance de son corps de gloire. Et alors, nous serons entièrement libérés. Mais vivez déjà de cette certitude qu'aux yeux de Dieu, vous n'existez plus comme pécheur. Vous existez comme racheté de son Fils bien-aimé, qui vous a payé à un si grand prix, que vous êtes cher maintenant au cœur. Alors méditez sur ce « Je viens au Dieu pour faire ta volonté ». C'est mes délices au Dieu de faire ta volonté. Ta loi est écrite au-dedans de mes entrailles. Jésus n'est pas venu avec des tables de la loi. La loi était écrite dans son cœur. Et ce qui est vrai maintenant pour Jésus, par le Saint-Esprit, cela est vrai aussi pour nous. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour toujours. Comme vous avez été justifiés par l'œuvre du Seigneur, vous êtes aussi sanctifié. C'est pas vous qui péniblement devez vous sanctifier, vous vous laissez faire par le Seigneur. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Je me sanctifie, avons-nous lu dans la prière de Jésus, moi-même pour eux. Il est notre justification, mais il est aussi notre sanctification. Tout est donné par lui et nous sommes vraiment dans la joie. Et pour terminer, nous avons le témoignage du Saint-Esprit à la fin de ce chapitre. Après qu'il soit dit par une seule offrande, il a amené à la perfection, verset 14, pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché. Est-ce que vous le croyez pour vous, ce matin? Est-ce que vous le croyez pour vous? C'est Dieu qui vous le dit. Dieu ne peut pas être menteur. Vous n'allez pas douter de sa parole. Parce que alors, ça serait ça l'offense. Ce serait ça le péché. Ce serait douter de son amour. Mais il vous aime. Et il vous dit, c'est fini. Quand un de nos enfants qui avait eu un manquement vient nous demander pardon et qu'on lui donne le baiser de la réconciliation, est-ce qu'on continue de nous éloigner de lui? Non! On le prend dans nos bras et on le serre plus fort encore qu'avant. Eh bien, laissez-vous étreindre par l'amour du Seigneur. Son amour est toujours son amour. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Elle a été faite, cette offrande. Et à la table du Seigneur, nous nous en souvenons. Nous nous souvenons que le Christ a donné son corps, que le Christ a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Et en attendant qu'il vienne, nous accomplissons le désir de son cœur, faites ceci en mémoire de moi. Que c'est beau. Alors nous allons entrer dans le sanctuaire. Et si vous avez été touché d'une façon ou d'une autre par les vérités de la parole, vous allez lui dire votre reconnaissance. Qu'est-ce qu'on a à lui dire? À lui dire merci? Il y en a peut-être qui ne lui ont jamais dit cela. Voulez-vous lui dire merci? C'est le oui de Marie! C'est le oui de la foi! L'ange lui a dit quelque chose d'impossible. Qu'elle serait enceinte et elle ne connaissait pas d'homme. Dans le sens de connaître de l'écriture. Et alors, elle est là devant l'ange qui attend sa réponse. Et qui lui dit, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible. À Dieu. Alors, elle s'incline. Ça vous paraît impossible ce que je viens de dire, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Que le Seigneur ne se souvient plus de vos péchés. Que Dieu ne se souvient plus, qu'il n'est qu'amour pour vous. Eh bien, si vous le croyez, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, non pas je vais faire, mais qu'il me soit fait selon ta parole, je crois cette parole. Et je te dis merci. Parce que qu'est-ce qui a suivi le fiat de Marie, le oui de Marie? Quand elle est arrivée chez Élisabeth, qu'est-ce qui a jailli de son cœur? Le Magnificat. Le Magnificat. Alors, est-ce que notre culte ce matin sera le Magnificat? Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Mon Sauveur. Quelle introduction pour un culte. Voilà. Alors maintenant, quels sont nos sacrifices? Il y en avait dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, ce ne sont plus des sacrifices matériels. Ce sont des sacrifices spirituels. Et c'est mon dernier mot. Qu'est-ce que nous pouvons offrir? Nos corps. En sacrifice vivant. Romains chapitre 12. Voilà le premier sacrifice spirituel. Offrez non plus vos péchés, mais vos corps. Dieu a besoin de corps, il a eu besoin d'un corps, et il a été formé dans le sein de Marie. Maintenant, il a besoin de vos corps, pour y continuer, en quelque sorte, son incarnation. Parce que c'est dans vos corps que Dieu peut être vu. Le vrai temple du Saint-Esprit, c'est votre corps qu'il est. Alors, livrez votre corps en sacrifice. Ce matin, Seigneur, prends mon corps. Je t'offre pas seulement mon âme, tu l'as ratée, mais maintenant je t'offre ce qui est le vase de l'âme, c'est quoi? C'est le corps. Puis c'est justement par le corps qu'on pêche. Alors offrez vos corps, maintenant il n'est plus à vous votre corps. Oh, il n'est plus à moi. Je ne pourrais plus faire ce que je veux avec mon corps. Mais vous ferez ce qu'il veut, lui. Et il vous donnera des jouissances bien différentes. Et bien supérieure à toutes celles qui ne nous laissent qu'un arrière-goût de centre, comme dit Tolstoï. Livrez vos corps en sacrifice. maintenant. Saint, agréable à Dieu. Puis ensuite, second sacrifice spirituel, Hébreux 13, vous le trouverez. Offrons donc par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confessent son nom. Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité dans les morts, confesse-le de ta bouche. Loue le Seigneur. Confesse son nom, comme Marie a osé confesser son nom. Et ce sera le second sacrifice spirituel. Et puis, il sera dit encore au sujet des sacrifices, dans ce chapitre 13 de cette même épître aux Hébreux, n'oubliez pas la libéralité. Donc il est question de nos biens, qu'on peut aussi offrir au Seigneur. Et c'est pourquoi nous vous avons dit que par exception, mais parce que ça devrait toujours faire partie d'un culte, nous apportons ce que nous avons pu mettre de côté pour le Seigneur en y ayant pensé une offrande volontaire que l'on dépose dans ce tronc qui est la boîte aux lettres ici et qui sera dans le moment du point du jour, nous examinerons à qui nous enverrons vos offrandes dans un accord complet. Mais ça fait partie du culte, l'offrande de nos biens, nos corps, la louange de nos lèvres, l'offrande de nos biens pour le ministère, pour le service du Seigneur dans ce monde. Et enfin, n'oubliez pas la bienfaisance. Au chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, qui était en prison, a reçu un don des croyants de Philippe et il leur dit sa reconnaissance. Au verset 8, donc plus loin, au verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre, disait-il au verset 12, je sais vivre dans l'humiliation, mais je sais vivre aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je dis en remontant, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je vous ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice qui est agréable, que Dieu accepte, qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Nos corps, la louange, la libéralité et la bienfaisance. Que cela soit nos sacrifices aujourd'hui. Amen.
Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme souverain sacrificateur, qui entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, donc vous voyez qu'on est dans les temps de la fin, et on est dans les temps de la fin depuis quand? Depuis la venue de Jésus. Vous comprenez bien cela, hein? En ces temps qui sont les derniers, c'est le moment où Dieu parle dans son Fils. Les temps de la fin commencent par la venue du Fils. Il l'a envoyé en dernier. Il n'y a plus rien d'autre à attendre que son retour. C'est cela qui devient précieux pour nous. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. La question du péché, elle est définitivement réglée. Elle a été réglée par qui? C'est vous qui l'a réglée? Non, c'est le Seigneur. Hein? Et c'est ça qui est merveilleux. C'est cela qui vous donne de la joie. C'est cela l'évangile. Qu'est-ce que veut dire évangile? Une bonne nouvelle. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de votre salut. Il est votre salut. Le Christ est votre salut. Et quand vous saisissez cela et que vous l'acceptez, que vous recevez non pas une nouvelle doctrine, mais quelqu'un, ce Jésus, en pouvant dire « Il est mon Sauveur, il est mon Seigneur » et il deviendra, plus j'apprendrai à le connaître, puisque c'est ce que Jean-Paul II vous demande, apprenez à le connaître, qu'est-ce qu'il deviendra vraiment? Votre bien-aimé. Et celui qui aura toute autorité sur votre cœur. Alors mettez en pratique ce que l'on vous demande dans les hautes instances de la hiérarchie même. Et verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. N'est-ce pas? Nous sommes déjà sauvés quand nous croyons, mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'être sauvés de notre corps, comprenez-vous? On a des corps d'infirmité. Et en un instant, quand il viendra, il transformera le corps de notre humiliation en la conformité de son corps de gloire. Mais à son retour aussi, il apportera le jugement à tous ceux pour lesquels il était mort, mais qui n'ont pas voulu de sa grâce, qui n'auront pas voulu de son intervention, qui auront refusé son amour. Voilà, mes amis, je vais vous laisser. Je m'excuse si, encore une fois, c'était peut-être un peu long, mais j'ai essayé de rejoindre les deux cohortes, celle qui va partir et qui sait que nous allons continuer d'étudier cette épître, et qui étudieront cette épître chez eux, la fin de l'épître, et puis ceux qui viennent d'arriver, et qui, par la grâce de Dieu, eh bien, étudieront ici ces chapitres de la vie pratique. Comment, maintenant que nous savons ces choses, vivre d'une manière qui soit en harmonie avec ces vérités célestes? On peut avoir un moment de prière? Thank you.
grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part du Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Amen.
Amen.
Pour introduire l'heure qui va suivre, je vous propose le cantique numéro 8. Avant de célébrer le culte d'adoration à notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, le Fils de Dieu devenu le Fils de l'homme, nous allons terminer nos études bibliques pour le premier camp ou la première semaine du camp complet sur l'épître aux Hébreux, et nous lirons ce matin le chapitre 10 de ces épîtres.
Nous allons rester dans le recueillement et je reprendrai dès que Madame Letendre sera arrivée. Loin de vous dire combien nos cœurs sont émus et comme nous sommes dans la joie de revoir notre sœur bien-aimée. Vous pouvez vérifier les paroles du Seigneur qui par l'esprit prophétique annonçait lui-même ce qu'il pourrait faire lorsque Satan, l'ennemi de nos âmes, profitant de nos faiblesses, de nos insuffisances, essaye de nous détruire ou de détruire la joie de toute une compagnie de rachetés. Mais le Seigneur est là. Et qu'a-t-il fait? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit, ô Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car, et c'est ce qui est arrivé, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous croyons que le Seigneur, dans cet accident qui aurait pu être fatal à notre sœur et amener dans tout ce camp la consternation, nous croyons que le Seigneur est intervenu par ses anges. Mais que pour nous parler à nous, il a permis qu'il y ait une marque de cet accident pour nous rappeler combien nous devons veiller les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, nous aider les uns les autres, penser d'abord aux autres, et je suis convaincu, comme je l'ai été dès le premier instant, même si dans la nuit mes cheveux pouvaient blanchir, j'ai été convaincu que Dieu n'avait qu'un dessein d'amant. Le pourquoi, nous ne le comprenons pas, mais Dieu ne se trompe pas. Et nous demandons au Seigneur que cette mise à l'écart soit un repos pour notre sein, et qu'au lieu d'y voir une fatalité, elle puisse y voir la main du Seigneur qui poursuit ses desseins, bienveillant à son égard, comme à l'égard de tous les siens, et qui avait quelque chose de personnel à nous dire aux uns et aux autres. Père, nous te rendons grâce pour la main de tes anges qui ont gardé notre sœur de se fracasser la tête ou la colonne vertébrale ou le col du fémur, tout ce qui aurait pu arriver, et d'avoir permis seulement que cette cheville porte une blessure. Mais cette blessure, tu vas la guérir. Et la guérir pleinement. La guérir totalement. De sorte que notre sœur sera encore enrichie d'une marque de ton amour à son pied. C'est comme cela que nous prenons cette épreuve, en te demandant maintenant de nous donner, de jouir ensemble de la communion fraternelle et de vivre par ta parole. En Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes amis, dans ce dimanche 17 août, 1980, dans ce camp qui a pour thème les droits du Fils de l'homme, avant de célébrer ce culte d'adoration, nous voulons lire la fin de la première partie de l'Épître aux Hébreux qui, de jour en jour, a servi de toile de fond à notre thème. Aujourd'hui, dernier jour pour ceux qui vont nous quitter, nous lisons au chapitre 10 des Hébreux les 18 premiers versets. Et ainsi, nous aurons achevé la partie doctrinale de cet épître. Et nous pourrons commencer, dès demain matin, Dieu voulant, la partie pratique, en atelier, jusqu'au vendredi matin de cette semaine. Nous lisons Hébreux chapitre 10. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peut jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Que Dieu bénisse ta parole pour nos âmes. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et que la vérité que contient ce chapitre et qui doit nous concerner les uns et les autres, pénètre dans nos cœurs, illumine notre esprit, notre intelligence, et nous apporte ce que nous n'avons peut-être encore jamais connu, une conscience totalement purifiée et renouvelée en ton amour, de telle manière que nous ne vivrons plus dans le souvenir de nos fautes, et que nous n'aurons plus continuellement ce sentiment de culpabilité. Seigneur Jésus, fais ce miracle au milieu de nous. Régénère-nous par ton esprit et donne-nous de jouir de la position céleste que tu nous as faite, de ne plus regarder à nous-mêmes ni à nos péché passé, mais de regarder à ce que tu es et à ce que tu es capable de faire pour nous garder sans que nous branchions jusqu'à ce que tu viennes. Amen. Mais bien aimé, après avoir vu au chapitre 7 de cet épître, le sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, au chapitre 8, nous avons considéré le vrai sanctuaire dans lequel notre souverain sacrificateur officie. Ce n'est pas un temple terrestre, il est dans le ciel même où il se tient pour nous devant la face de Dieu. Au chapitre 9, nous avons considéré le sang qui nous a ouvert ce sanctuaire, ce sang qui nous purifie de tout péché. Il nous reste maintenant à voir plus à fond un quatrième point déjà mentionné. Quel est le chemin jusque dans le sanctuaire, jusqu'à ce lieu très saint, quel est ce chemin que le Christ a suivi pour entrer au-delà du voile. Autrement dit, qu'est-ce qui fait la valeur infinie du sacrifice de Jésus-Christ comparé à tous les sacrifices de la loi mosaïque? Bien, la réponse à cette question, c'est justement le sujet des 18 premiers versets de notre chapitre qui termine, comme nous le disions, la première partie de cet épître, cette partie que nous appelons doctrinale, et forme en particulier la conclusion de cet enseignement supérieur qui est destiné à des hommes faits, aux parfaits, à ceux qui ne veulent pas rester des petits-enfants en Christ, mais qui veulent parvenir à la pleine mesure de la stature de Christ et être enfin délivrés même de ce sentiment de culpabilité qui si souvent nous ronge, nous paralyse et nous enlève complètement notre joie, ce bonheur suprême de savoir que notre Sauveur nous aime et que non seulement Dieu ne se souvient plus de nos péchés, mais que son désir, c'est que nous aussi, nous ne vivions plus dans le souvenir de nos fautes. Car si Pierre avait dû vivre dans le souvenir constant de son reniement, il n'aurait jamais plus prêché l'Évangile. Et il n'aurait jamais pu dire, quelques jours après l'ascension du Seigneur, donc une soixantaine de jours, 50 jours exactement, après cette ascension, le jour de la Pentecôte, quand il prêche, et les jours suivants, il n'aurait jamais pu dire aux Juifs, vous avez renié le Saint et le Juste. Il n'aurait jamais dit une phrase pareille, parce que lui-même l'avait renié. Mais il avait été restauré d'une façon si parfaite par le Seigneur lui-même, quand le Seigneur à 3 reprises, quand Pierre s'est représenté devant lui, et que Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que le font ceux-ci, parce que Pierre avait dit, quand même tous te renieraient, moi je ne te renierai pas. Il avait jugé tous ses frères, et il se croyait lui assez fort pour être fidèle quand tous les autres seraient infidèles. Et c'est ainsi que c'est lui qui avait renié le Seigneur. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé dans son péché. Pierre est sorti après son reniement et il a pleuré amèrement, tandis que Judas, lui, quand il a vu que ça tournait mal pour son maître qu'il avait vendu pour 30 pièces d'argent, il n'est pas allé vers le Seigneur. Il est allé seul pour se pendre et il est mort dans son orgueil et dans son péché. Pierre s'est représenté, malgré que c'était humiliant. Et il a été pleinement restauré, et restauré à un tel point qu'il a pu librement prêcher aux autres, ne se souciant plus de ce qu'il avait fait, et pouvant dire, vous avez renié le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la puissance du Saint-Esprit délivre une âme, il faut qu'elle soit délivrée. Je ne sais qui l'Esprit touchera. Mais il y a peut-être plus d'une âme qui doit être délivrée de ce souvenir de ses fautes, de cette paralysie, pour jouir pleinement de la liberté glorieuse des enfants de Dieu et se laisser désormais saisir par le Seigneur qui vous donne son onction puissante, l'onction de l'Esprit, et qui vous permettra de dire des paroles de vérité sans plus vous soucier de ce que vous êtes vous-même. Vivez dans l'oubli de vous-même et vivez dans la contemplation de lui-même. Et ce qu'il est lui-même, souvenez-vous que c'est ce que vous êtes, vous maintenant, aux yeux de Dieu. Est-ce que vous le croyez, ça? Ce qu'il est lui-même, c'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Et ce que vous étiez, c'est ce qu'il a été où? À la croix. Et c'est là que vous avez été frappé. C'est là que vous êtes mort. Mais le Seigneur n'est pas resté sur la croix. Vous n'êtes pas resté comme un cadavre sur une croix pour que vous puissiez vous regarder tous les jours comme le grand cadavre et toujours méditer sur le grand cadavre. Le cadavre a été enseveli. Jésus lui-même n'est plus sur la croix. Il a été enseveli. Et votre vieil homme qui a été crucifié a été enseveli. Image que nous avons vécue d'une façon saisissante hier dans les trois baptêmes. Mais comme nos frères et sœurs sont sortis des eaux, le Seigneur est sorti ressuscité, vivant pour que vous puissiez déjà désormais marcher en lui. Mais c'est en lui que le Père vous voit maintenant. Tel qu'est le Fils, tel aussi vous êtes. Votre vraie vie dans l'autorité du Saint-Esprit, nous le proclamons, votre vraie vie, ce n'est pas celle que vous contemplez quand vous regardez votre cadavre, cadavre du vieil homme qui se corrompt, qui ne s'améliorera pas. Votre vraie vie, c'est la vie de Jésus. Et dans la mesure où vous fixez vos yeux sur Jésus, c'est lui que vous reflétez. Et dites-vous bien qu'aux yeux de Dieu, vous avez disparu de son horizon en tant que pécheur. Cette question du péché a été définitivement réglée. Vous devez être affranchi de cette question-là. Vous n'avez plus toujours à ressasser vos péchés, à revenir sur vos péchés. Rejetons sur le Seigneur tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Il nous enveloppe. Et même le souvenir de nos péchés nous enveloppe. Vous rejetez cela. Ce n'est plus votre affaire. Ça a été l'affaire de Jésus. Vous n'avez plus le droit de connaître ces mauvaises tristesses. Vous pouvez pleurer pour les autres, comme Paul pleurait pour des gens qui prétendaient marcher, mais qui déshonoraient le Seigneur, qui étaient en vérité des ennemis de la croix de Christ, quoique baptisés. Vous pouvez pleurer sur cela, hein, mais vous n'avez plus le droit d'entretenir vos mauvaises tristesses en vous disant toujours « Je ne suis pas ce que je devrais être. » Il n'est plus question de vous. Il est question de ce que Jésus est. Et ce que Jésus est, c'est ce que vous êtes aux yeux de Dieu. C'est pas faux. Vous ne trouvez pas que c'est faux? Mais oui, c'est la folie de Dieu, c'est ce qu'il a voulu faire. Oh, que le Saint-Esprit vous fasse saisir ce que moi je suis incapable de vous faire saisir, mais il peut le faire pour que vous réalisiez que le salut, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, et que le salut qui est le vôtre, c'est Jésus. C'est lui. Votre salut, c'est lui qui est votre vie. Alors, vous ne vous glorifierez plus vous-même. Vous glorifierez qui ? Le Seigneur, vous ne parlerez plus en bien simplement des hommes, vous parlerez du Seigneur. Et s'il y a quelque bien produit dans un frère, qui est-ce qui l'a produit? C'est le Seigneur. Alors vous reconnaîtrez quelques traits du Seigneur. Et vous ne parlerez plus des hommes, vous ne ferez pas un cadre autour d'un homme que vous avez pu aimer, mais vous adorerez le Seigneur. Parce que vous savez, en ces jours où l'on se met de nouveau dans les églises à vendre des icônes, il y a des chrétiens dits évangéliques qui jugent cela très grave, mais qui ont des icônes, eux aussi, non pas sur du papier, mais dans leur cœur. Ils ont une petite image d'un être qu'ils aiment beaucoup, c'est peut-être un serviteur de Dieu, et puis ils lui brûlent de l'encens au lieu de brûler l'encens au Seigneur. Comprenez-vous? Alors, au lieu de juger ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait chez les autres, nous sommes toujours ramenés à nous juger nous-mêmes, parce que nous sommes étrangement semblables, même si nous n'avons pas nos icônes. Et qu'est-ce qu'une icône? C'est une image. Alors, ayez quelle image dans vos cœurs? L'image du Seigneur. Je cherche ton image. Je cherche ton visage tout au fond de vos cœurs. Il n'y a qu'une image que vous devez révérer dans vos cœurs, c'est le Seigneur. L'image que vous en donne la parole. Et ce que la parole nous donne, c'est l'image de Jésus qui est l'empreinte de la substance de Dieu, le resplendissement de sa gloire. Alors vous n'allez pas confiner cela en un homme. Vous allez contempler encore Jésus et Jésus. Dans ces 18 versets, donc dans cette première partie, que vous lirez vous-même, que vous relirez, dont vous vous imprégnerez, vous verrez que le Christ est présenté essentiellement comme la victime sainte et parfaite dont tous les sacrifices offerts sous la loi n'étaient que des figures. Ces sacrifices qu'on offrait chez les Juifs ne pouvaient point ôter les péchés, nous dit l'apôtre anonyme de cet épître. Ni par conséquent, puisque les sacrifices ne pouvaient pas ôter nos péchés, ça ne pouvait pas purifier notre conscience. On ne pouvait pas être sans conscience de péché dans l'ancienne alliance. Mais justement, maintenant, ce qui est merveilleux, l'excellence de la nouvelle alliance, c'est que cette question du péché étant définitivement réglée, notre conscience peut être purifié. Et comme nous le verrons demain, nous pouvons paraître devant Dieu sans conscience de péché. Vous voyez quelle guérison? Sans avoir été chez le psychiatre. En nous disant, en étant convaincus que c'est la vérité, hein, il nous délivre même d'une mauvaise conscience. Et la maladie du siècle chez les chrétiens, qu'ils soient évangéliques ou autres, c'est une mauvaise conscience. Eh bien, votre grand sauveur, qui vous donne un si grand salut, vous libère de votre mauvaise conscience. La question de vos péchés, Jésus a voulu la résoudre entièrement. Et c'est justement pour cela qu'il est venu. Il y avait assez longtemps qu'on offrait des sacrifices. Depuis Moïse jusqu'à Jésus, on offrait continuellement ces sacrifices, à un tel point qu'on dit que la Bible est un livre de et qu'on a même dit, certains théologiens, que la théologie biblique, c'était une théologie de quoi? De boucher. Parce que c'était toujours du sang et encore du sang. Ce sang ne pouvait pas ôter définitivement le péché. Et il fallait qu'à chaque péché, on renouvelle le sacrifice. De sorte que chaque fois qu'un Israélite faisait un sacrifice, il remettait tout en question. Il se replaçait dans ce sentiment de culpabilité. Or, l'offrande du Christ, victime sans tache, cette offrande qui a fait déjà le sujet du chapitre 9, mais qui, au chapitre 10, nous montre surtout les grands résultats du sacrifice du Christ, c'est que maintenant, plus de conscience de péché. Alors, vous allez vous imprégner de la doctrine du chapitre 10. Et il est bon d'avoir en mémoire ce qui se passait en Israël le grand jour des expiations, Exode chapitre 19. Nous avons ici, dans cet épître aux Hébreux, un commentaire inspiré de ce que signifiaient toutes les cérémonies qu'on faisait ce jour-là, une fois par an, dans le grand jour des expiations. Mais nous n'allons pas vous en parler en détail, comme nous n'avons pas voulu vous parler du tabernacle hier en détail. Il est dit simplement au verset 28 du chapitre 9 que Jésus s'est offert une fois pour l'abolition, notez bien ce mot, hein, pour l'abolition du péché par son sacrifice. Le Seigneur s'est offert pour que cette question-là soit abolie, une fois pour toutes. Alors, qu'étaient donc les sacrifices offerts sous la loi? Cela va nous être dit dans ce chapitre. C'était l'ombre des biens à venir, et non la représentation exacte des choses. Et les biens à venir, dont ces sacrifices mosaïques étaient l'ombre, bien ce sont toutes les bénédictions que le Christ nous apporte. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit qu'on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Jésus, vous avez les réalités. Ce ne sont plus des ombres, ce sont les réalités. Alors, la loi ne pouvait représenter ces bénédictions dans leur glorieuse réalité. Parce que ces bénédictions, elles ne se trouvent pas dans un code, elles se trouvent dans une personne. Les bénédictions ne sont pas sur les tables de la loi,